émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
Lorsque nous travaillons gratuitement, nous perpétuons l'idée que notre travail n'est pas du vrai travail. Accepter de travailler gratuitement renforce également les conditions où seulement ceux et celles qui ont les moyens de travailler sans rémunération peuvent continuer à pratiquer leur métier. Il va sans dire que ces conditions affectent de manière disproportionnée les femmes, les personnes de couleur et autochtones, ainsi que les membres des communautés LGBTQ+. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un extrait, traduit, de « Letter Template of Offers of Unpaid Work » de Nicole Burrish, donc un modèle de lettre qu'elle nous invite à utiliser lorsqu'une personne ou une organisation nous propose de faire un travail non rémunéré. Je m'appelle Benjamin J. Allard et au début de cette 61e émission de Radio Atelier, je cherche à voix haute où sont ces lignes de démarcation entre l'occasion à appartenir à un projet collectif, même non rémunéré, et cet autre côté, la perpétuation d'un système d'exploitation, la création d'un projet qui exclut là où il devrait faire preuve de compassion et qui profite encore à ceux qui ne le méritent plus. Vous écoutez Radio Atelier, un projet bénévole en direct de CIBL, Jojage, un territoire Guyane-Gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Gina Badger partageait, il y a quelques années, dans son dernier éditorial de Fuse, un magazine artistique canadien qui a survécu pendant 38 ans, qu'il ne pouvait plus compétitionner avec des magazines qui ne payent pas leurs artistes ou leurs écrivains. Un magazine ayant comme valeur phare les micropolitiques du travail n'est pas un projet viable dans les conditions actuelles. Radio Atelier a été conçu comme un magazine radiophonique des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous nous posons souvent la question des paramètres d'invitation, des mécanismes de sélection, des degrés d'implication, des réseaux de collaboration et des modalités de présence qui devraient être mises en œuvre pour créer une alternative selon le contexte actuel. Donc, c'est un début de conversation, peut-être une suite d'éditorial sur les conditions matérielles de Radio Atelier, nos recherches pour du financement pour ce projet et aussi quelques récentes réflexions que nous avons eu sur l'art. C'est à suivre dans les prochains épisodes, mais pour cette semaine, nous avons un menu chargé et très excitant. D'abord, en première partie d'émission, nous discutons de livres sur les livres et d'art sur l'art avec Philippe Munda, et nous occupons les murs par-delà la ville et au-delà de la ville à la chronique sur l'art public d'Elisabeth Recure, qui a invité Elisabeth Ann Doyle. Nous avons également une deuxième partie d'émission tout en lecture, d'abord en poésie, qui rêve au territoire sur la chronique d'Alizée Pichot et une création en conversation de l'artiste Karina Palifikovsky. Et puis, nous voulions faire un tour de table aujourd'hui, donc je dis bonjour aux chroniqueuses qui sont présentes, Elisabeth Recure et Alizée Pichot. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Benjamin.
Et bonjour Alizée.
Bonjour.
Et notre invitée aujourd'hui, alors, Elisabeth Ann Doyle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous commenciez déjà à avoir certaines correspondances entre vos deux chroniques en début d'émission?
Oui, parce que je pense que on va parler de murales. Et bon, une des murales cette année qui a été créée, c'est le portrait d'Obamsawin, Alanis Obamsawin. Qui est une figure autochtone très importante. Et je pense que toi aussi, tu vas nous parler un peu de ce sujet-là avec Naomi Fontaine.
Oui, tout à fait. Je vais vous parler de cette œuvre de Naomi Fontaine, qui est une écrivaine innue et qui nous raconte aussi une autre réalité qui a été montrée par le cinéma, par Alanis Obamsawin. Et il me tarde d'entendre Elisabeth Ann Doyle nous parler de ce projet.
Eh bien, on a hâte également, mais on va commencer en musique. Donc, le commissariat musical cette semaine est proposé par l'étiquette Rara Avis, fondée par Ghislain Roy et Chaillé Lefebvre. Rara Avis est dédiée à des artistes et des musiciens dont les projets dévient des paradigmes passés et actuels de la musique expérimentale. Plusieurs pièces que vous entendrez aujourd'hui ne sont pas encore disponibles, mais seront lancées le 26 octobre prochain à la Casa Obscura, donc vous êtes tous invités. C'est le cas pour la première pièce de Ghislain Roy que nous entendrons dès maintenant, intitulée « Érigé dans le ciel des angles verts », c'est de son album « Au commencement, faire des gargarismes ». Ghislain Roy construit et joue des objets ou des sculptures sonores inventées à partir d'objets quotidiens rejetés, tels que des restants de clôture, une canne de tomate, une poignée de robinet extérieur, un quart de rond, des aiguilles, une calebasse, des synthés, des pédales et bien d'autres gogos. « Notre première chronique cette semaine est avec Elisabeth Recure. Alors, c'est ton sixième passage à l'émission et tu nous invites à regarder à nouveau l'art public. Aujourd'hui, tu nous parles de murales.
Oui, Montréal est définitivement une ville de murales. En fait, c'est quand même assez récent. Je dirais qu'à 20 ans, il y avait beaucoup moins de murales à Montréal. Ça a complètement changé le visage de cette ville. Et donc, parmi toutes ces murales qui habitent notre ville, il y a une bonne quantité d'entre elles qui sont l'œuvre de l'organisme MU.
Et tu as donc invité une de leurs fondatrices.
Oui, donc on a présenté Elisabeth Anne tout à l'heure. Elle a fondé avec Emmanuel Hébert en 2007 cet organisme MU. Il y a quelques chroniques, j'avais parlé ici de Melvin Charney qui a créé des œuvres tout à fait site-spécifiques. On avait parlé de celle qui est au jardin du CCA. Et à ce propos, je me souviens que j'ai parlé de l'initiatrice du Centre canadien d'architecture et de l'organisme Héritage Montréal, qui est Phyllis Lambert. Et j'apprends justement que MU vient d'inaugurer une murale en l'honneur de Phyllis Lambert, pas loin d'ici, au coin de Jeanne Mance et Milton.
Ah, j'ai pas encore eu la chance de la voir.
Ouais. J'aimerais donc savoir, Elisabeth Anne, d'où vous est venue l'idée de MU et pourquoi vous avez choisi ce mot, d'où ça vient cet intitulé MU.
En fait, MU, ça veut dire mur, mural, et le participe passé du verbe, c'est la mutation, en fait. Mais c'était avant tout la MU, l'idée des murales, des œuvres d'art comme une nouvelle peau sur les murs de la ville. Donc, MU, en fait, ça a plein de significations. C'était un beau nom pour nous. L'idée vient de la ville de Philadelphie, en fait, qui est vraiment la capitale occidentale des murales. C'est une ville qui encourage l'art mural depuis plus de 30 ans. Il y a plus de 4000 murales à Philadelphie. Et c'est un projet qui nous avait interpellés parce qu'il n'était pas seulement que artistique, mais bien social. Donc, c'est toute la façon de fonctionner derrière la production qui nous intéressait, l'adhésion des communautés surtout, et le fait que les œuvres racontent la vie des gens.
Ouais. Est-ce qu'il y avait Lyon aussi, je pense, qui vous a un peu inspiré? Parce qu'à Lyon, on a beaucoup de murales aussi. Hein?
Oui, effectivement. Lyon, je dirais que c'est la capitale européenne de l'art mural. Puis Lyon, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était un projet où la quantité de murales qui ont été réalisées dans des HLM, la cité Garnier, est devenue en fait un patrimoine protégé par l'UNESCO. Et c'est le modèle qu'on a présenté aux habitations Jeanne Mance, ici, nos voisins, qui sont notre lieu chez MU, mais où depuis 10 ans, on réalise beaucoup de projets et qui a vraiment changé, en fait, ce quartier, cet ensemble d'habitations à loyer modique.
Oui, oui. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, beaucoup dans votre entreprise. C'est pas seulement le fait que, oui, vous participez artistiquement, esthétiquement à la ville, mais c'est aussi le fait qu'il y a une transformation sociale qui se fait par votre organisme. Peut-être que ça a rapport avec le fait que ta mère, j'ai lu, avait déjà laissé une empreinte un peu sociale dans ce monde. Elle était une conseillère politique féministe engagée dans sa communauté. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un peu plus le volet communautaire et éducatif, donc, de MU.
Je te réponds avec une information additionnelle. C'est Emmanuelle et moi, l'autre cofondatrice, on vient toutes les deux de milieux particuliers. L'art a été au cœur de notre partage, mais Emmanuelle est davantage une femme qui a été intéressée par la politique et les affaires communautaires, alors que moi, j'étais toujours très intéressée par le milieu culturel d'abord. Donc, c'est vraiment avec ces deux axes-là qu'on a fait avancer la mission de MU, qui effectivement est teintée donc d'une volonté d'utiliser l'art à des fins de vecteur de transformation sociale. Alors, c'est l'idée que les œuvres ne sont pas seulement de la décoration au mur, mais bien avant tout des processus de transformation, donc où des valeurs citoyennes sont communes et où on peut raconter des histoires, faire la différence et que les œuvres participent à un changement.
Donc, vous faites, vous faites des ateliers dans les écoles, vous engagez beaucoup de jeunes à qui vous donnez, pour ainsi dire, un métier, hein, qui apprennent avec ceux qui sont professionnels dans vos projets. Donc, ils se forment une espèce d'expertise. Hein, et donc, il y a toute une formation des jeunes, en plus du fait que vous réalisez ces murales dans des milieux que vous transformez, justement. Parle-moi, donc, je pense que c'est votre bureau qui est dans les habitations Jeannemans, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, donc, avec la revitalisation de ce quartier? Donc, c'est un exemple de... Je pense que vous avez travaillé beaucoup sur une trentaine de HLM à Montréal. Mais, oui. Donc, les habitations Jeannemans, c'était un grand projet.
Oui, ben les habitations Jeannemans, c'est vraiment le projet qu'on utilise. C'est un peu notre projet phare pour... en fait, démontrer, j'ai jamais le bon mot français, mais le case study.
Un cas d'étude.
Un cas d'étude, merci. Pour signifier, en fait, pour illustrer à quel point l'art peut être un vecteur de changement. Les habitations Jeannemans, donc, pour mémoire, c'est un plan d'ensemble d'habitations à loyer modique dans le centre-ville de Montréal. C'est le plus grand et le plus vieux HLM au Québec. Et ben il y a 15 ans, on y faisait vraiment référence comme le ghetto à Montréal. C'était un endroit qui suscitait l'insécurité, qu'on jugeait dangereux, qu'on jugeait pas nécessairement insalubre, mais bref, qui suscitait l'insécurité des citoyens. Alors, on a été invité à y réaliser des œuvres il y a 10 ans dans le cadre de leur 50e anniversaire. Et depuis, on y réalise des murales et des projets de mosaïque et des ateliers jeunesse tous les étés. Et donc, aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine d'œuvres sur le territoire des habitations Jeannemans. Et c'est aujourd'hui, le site a été complètement transformé par des actions d'œuvres d'art et de verdissement. Et aujourd'hui, c'est un site qui est... dont on utilise en référence de bonne gestion d'HLM au niveau innovateur, de transformation. Moi, j'aime bien dire tous les autobus touristiques à Montréal
passent par là.
Passent par là. C'est quand même des HLM, c'est nouveau de penser ça.
Et c'est intéressant, là, on a parlé de la place de la murale dans la ville, mais il y a également la place de la ville dans la murale. Il y a plusieurs murales qui font justement référence à cette ville-là, ou du moins à une certaine identité. On parlait plutôt d'Alanis Obamsawin. Donc, est-ce qu'il y a une connexion justement de la ville dans la murale?
Bien, tout à fait. En fait, c'est important pour nous, encore une fois, de dire que les murales ne sont pas juste de la décoration. Ce n'est pas non plus des cartes blanches pour les artistes. On a toujours voulu, on s'est inscrit davantage dans le mouvement du muralisme plus traditionnel, pas au niveau de la facture, mais au niveau de la narration et l'importance que les œuvres soient contextuelles et uniques et spécifiques à leur site. Donc, ça peut pas juste être un artiste ou une artiste qui arrive et qui fait une œuvre qui pourrait être la même à Barcelone, à Bristol ou à Montréal. Donc, les œuvres qu'on crée, elles sont spécifiques à leur quartier, elles racontent l'histoire, elles sont ancrées dans les communautés. Et oui, la série que nous avons entamée en 2010, qui rend hommage aux bâtisseurs culturels montréalais, c'est évidemment une série qui représente Montréal par sa culture, ses artistes, les personnes qui sont nos grands créateurs. Et ça se voulait une série innovante parce que souvent, en art mural traditionnel, ben les œuvres célèbrent des personnes de pouvoir, des hommes politiques ou des sportifs.
Souvent des hommes blancs.
Oui, exactement. Donc, on avait envie de nous célébrer, utiliser l'art pour célébrer l'art, puis célébrer notre unicité comme métropole culturelle. Et donc, Alanis Obomsawin, c'est une immense cinéaste. Abénakis, et c'était un privilège de la célébrer et de son vivant, parce qu'il faut dire aussi que ce sont pas tous des œuvres qui sont posthumes. C'est assez chouette de célébrer
de leur vivant.
Oui, puis célébrer leur travail en leur présence.
À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, vous avez créé une murale à l'effigie de Leonard Cohen. ce qui marquait aussi le premier anniversaire de son départ, situé sur Crescent, au centre-ville. Peux-tu nous dire pourquoi vous avez choisi ce lieu-là, puis qui a travaillé sur cette murale en particulier?
On a commencé à travailler. Enfin, on essaie toujours de trouver, encore une fois, faire du sens. Donc, autant le lieu que les dates, que le fil conducteur des projets fasse du sens. Alors, on souhaitait, en fait, réaliser une murale pour les 80 ans de Leonard Cohen. Donc, on avait commencé à travailler sur ce projet-là en 2014.
Donc, il était au courant?
Oui.
De ce projet?
Oui. À défaut de financement et de toutes sortes d'organisations de production qui sont toujours le lot de notre quotidien, on n'a jamais pu faire cette murale. Et en 2014, et la prochaine date qui était pour nous importante, c'était 2016, qui allait marquer le 50e anniversaire de son premier album. Donc, on se donne toujours des moments forts où ça nous permet un peu de rajouter de la chair autour de l'os, là. Ça pas pu se faire non plus, et il est décédé. Alors, c'est devenu évidemment prioritaire pour nous de lui rendre hommage rapidement. On réalisait une murale au Musée des Beaux-Arts dans le nouvel édifice, au Pavillon de la Paix, sur Bishop. Et c'est une nouvelle vision qu'on avait du centre-ville sud. Et même si on cherche toujours des murs chez MU, ce mur se révélait un immense tour, mur aveugle, qui regarde vers la montagne. Cohen venait de mourir, c'était le projet. Et il faut se rappeler que Leonard Cohen, il est né à Westmount, il a grandi dans le centre-ville, il a étudié à McGill, et il se tenait dans les bars
de Crescent.
Et il en a beaucoup parlé. Le premier film où on l'aperçoit, il est sur Crescent et sur de la montagne dans les bars. Et j'aime bien aussi raconter l'histoire de l'album Field Commander en 79, où la photo, en fait, c'est un portrait en gros plan de Cohen. Il est sur Crescent, devant le Musée des Beaux-Arts.
Comme s'il faisait face à sa future murale.
Exact. Donc, j'aime bien ce lieu.
Donc, on choisit quand même les lieux d'une façon symbolique aussi, où vous placez vos murales. Le journal La Presse, le magazine Urbania, le Conseil des arts de Montréal a repéré et choisi votre entreprise culturelle comme exemple. Donc, MU a un parcours quand même bien remarqué. Quels sont les projets en cours? Quels sont les prochains projets?
Là, c'est la fin de la saison. Il commence à faire très froid. Ouais. Donc, il nous reste une murale actuellement qui est sur un immense édifice qui appartient à Énergir, au cœur du centre-ville, en face de plusieurs œuvres magnifiques d'ailleurs, d'un nouveau parc où l'art public est mis de l'avant. Donc, on termine ça à la fin du mois. Et puis, les prochains projets, c'est toujours pareil. C'est chercher des sous durant l'hiver et on repart à zéro à chaque fois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait l'été prochain.
Ce que je voudrais dire, finalement, c'est que quand même, un organisme comme MU a créé donc beaucoup d'emplois pour les jeunes et a permis donc d'acquérir une expertise pour les artistes qui commencent. Mais tout à l'heure, je te posais une question. Qui sont les artistes de la murale de Cohen? Puis tu m'avais pas répondu.
Important.
Un gars de Los Angeles et un de Montréal, je pense.
Oui, c'est une collaboration, en fait. Donc, l'artiste Jean Pendon, qui est montréalais, et l'artiste El Mac, qui est américain. Et je dois dire, 13 jeunes artistes montréalais qui sont assistants et qui font partie de nos programmes d'emploi été rémunérés, Benjamin, et qui ont assisté parce qu'évidemment, des murales, ça se réalise avec beaucoup, beaucoup de monde.
Merci beaucoup, Elisabeth Anne, pour cette entrevue.
Merci.
Ben oui, et puis merci, Elisabeth Recure, de l'invitation, d'avoir invité Elisabeth Anne et de nous aider à voir le musée que nous habitons à tous les jours. Alors, on va poursuivre l'émission avec une conversation entre Philippe Monda et Sonia Zlatanova. Donc, vous avez compris qu'on a certains de nos invités aujourd'hui qui ne peuvent pas être présents et qu'on a enregistré pour vous ce soir. Alors, Philippe Monda était de passage à Montréal pour la foire Volume. Il présentait son ouvrage « Histoire d'un vrai faux » ou « Vrai est entre parenthèses. C'est un livre construit sur la disparition de la circulation de deux œuvres et de leur réapparition grâce à des documents éditoriaux. Vous pouvez acheter « Histoire d'un vrai faux » au Centre d'artistes Clark et Scholl, ainsi qu'à la bibliothèque Le Port du la librairie Le Port de Tètre. Mais si vous préférez les bibliothèques et les centres de documentation, vous pouvez le consulter chez Artexte. Bonne écoute.
Bonjour Philippe. Tu es déjà sur le point de repartir à Marseille, mais tu étais ici donc à Montréal pour présenter ton livre « Histoire d'un vrai faux » dans le cadre de Volume. Volume est un événement autour du livre d'artiste et plus principalement consacré au monde plutôt distinct de l'édition du livre d'art ainsi que de l'auto-édition. Ton livre est principalement construit sur la disparition physique de deux œuvres et de leur survivance à travers des documents éditoriaux.
Histoire d'un vrai faux, donc c'est un livre d'emprunt à propos de personnes qui ont des pratiques éditoriales d'emprunt. Histoire d'un vrai faux rassemble deux objets principalement, un livre pirate qui est la copie d'un livre d'Aragon qui s'intitule Traité du style, paru en 1928. Ce livre a disparu du commerce, n'était plus disponible en librairie et une personne, anonymement, en a fait un pirate. Donc est allé chez un imprimeur le faire copier quasi à l'identique. Donc il a copié tout le livre qui comporte 242 pages. Une autre partie qui concerne un autre objet qui a disparu, une noire de Duchamp, non exposée en 1917. Véhiculé par sa reproduction, sa photographie et tout ce qu'on a pu écrire à son propos. Cet objet est dupliqué en 1964, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'en 2008, un artiste, Sadan Afif, a eu l'idée de constituer une collection de reproduction de cette fontaine, collectionnée, arrachée dans des livres, des pages concernant cette fontaine.
Tout au long du livre, il y a le verbe « faire » dans ses déclinaisons de conjugaison écrit en majuscules. Pourquoi ?
Donc Aragon commence son livre par « destinée de la fontaine ».« Faire » en français signifie « chier ». Exemple, « ne forçons pas notre talon, nous ne ferions rien avec grâce ». Donc à ce moment-là, quand on lit la première page du livre d'Aragon, qui est la page 9, qui est aussi la page 9 de mon livre, « faire » est mis en capital. Donc pour structurer mon livre, j'ai eu l'idée de parcourir le livre d'Aragon, et d'y chercher toutes les phrases contenant le verbe faire, c'est-à-dire du coup aller voir combien de fois Aragon était allé faire dans son livre. Voilà, et donc j'ai relevé toutes ces phrases, il y en a 150. Je les ai inscrites dans mon livre aux mêmes pages que l'édition du Traité du style. Donc je lui ai donné la même forme que le livre d'origine, donc 242 pages, le format quasi identique, une esthétique qui ressemble au livre NRF. J'ai inscrit à chaque page correspondant au livre d'origine, donc aux mêmes pages, j'ai inscrit la phrase tirée du traité du style. Donc ça a donné une structure au livre. Entre ces pages, j'ai ensuite intercalé les documents relatifs à la copie du livre d'Aragon, donc au pirate, et ensuite 36 pages de Fontaine, de pages arrachées de Fontaine, donc que j'ai reproduites. Sadan Afif m'a donné des scans de ces pages arrachées. Donc j'ai intercalé tous ces documents entre les pages du fer.
Et ton livre devient à son tour un objet éditorial. Ce que je trouve intéressant dans la construction de ton livre, il y a quand même un aspect très conceptuel, une règle du jeu que tu t'es imposée en allant jusqu'à numéroter, dupliquer les mêmes pages du livre d'Aragon aux tiennes. Mais il y a cette idée de mouvement, de répétition, il y a l'emprunt, il y a la duplication, de retourner vers le livre, de revenir au tien, de repartir vers le travail de Sadan Afif. Donc il y a clairement une mise en abîme aussi. Mais quel est ton rapport au livre en soi? Parce que là, tu le déconstruis, tu le un peu comme une matière première. Tu fais du collage, tu fais du découpage. Il y a clairement une désacralisation du livre. Sadan Afif le fait avec les catalogues dans lesquels sont reproduits l'urinoir de Duchamp. Il y va même par une forme de destruction en arrachant les pages. Quel est ton rapport, toi, au livre même ?
Dans le livre, c'est la pratique du livre. Bon, je m'intéresse à la lecture, mais surtout, je m'intéresse aux objets livres. Et je suis également l'éditeur de ce livre à travers mon projet Salon du Salon. Moi, j'édite des livres qui contiennent des livres. Je m'intéresse aux livres en tant qu'objet plastique. Et bon, voilà, toutes les pratiques... les pratiques d'emprunt m'intéressent, les pratiques du livre autre que la lecture, l'arrachage de pages, la recopie d'un livre, l'assemblage de livres. Voilà, je m'intéresse aux livres de cette façon. Une chose qui m'a intéressé aussi, là, c'est dans la rencontre avec Gérard Bérébi, ça m'intéressait de rencontrer quelqu'un qui a fait un premier livre qui était une copie, mais ensuite, c'est devenu quelqu'un qui est devenu éditeur, maintenant qu'il y a une maison d'édition qui a quasi entre 600 et 800 titres, je ne sais plus le chiffre exact. Les éditions Alia, qui sont une maison d'édition indépendante française assez importante et qui publie des choses, à mon sens, importantes. Un éditeur qui ne met pas, qui s'intéresse aussi finalement au format, qui n'a pas de catégorie, chez lequel on retrouve de la philosophie dans les livres de musique. Qui croise tous les genres. Et voilà. Et m'adresser pour publier mon premier livre à quelqu'un. Et raconter l'histoire de quelqu'un qui a publié son premier livre m'intéressait. J'ai trouvé énormément de conseils à travers l'entretien que j'ai fait avec lui quand je l'ai rencontré. J'ai fait 1000 exemplaires pour poursuivre son exemple. Lui avait fait 1000 exemplaires du traité du style pirate. Je me suis dit, je vais en faire 1000.
Pareil pour Saada Nafif, qui a décidé d'arrêter sa collection à 1000, sauf qu'elle est rendue à 1001. Peux-tu nous en dire quelques mots ?
Simplement parce que Sadan avait envie d'arrêter un moment la collection. L'idée, c'était d'en faire une œuvre. Effectivement, il y a ce chiffre 1000 qui revient, 1001. Bon, moi, ça m'intéressait d'être je ne suis pas le 1001e, mais bon, cette idée du 1000 et du 1, ça rejoint aussi quelque chose qui m'intéresse, le multiple unique, l'original, sa copie. Il y a pas mal d'autres anecdotes aussi pour revenir au lien entre Afif et Bérébi, entre le Alia, Alia qui est une marque de toilette ou de sanitaire. Il y a mille choses à dire. Voilà. Et donc, ouais, j'insiste vraiment sur l'idée que pour moi, publier un livre, donc c'est déjà travailler 3 ans, réunir un certain nombre de documents, mais surtout, laisser la place pour des développements. Ça veut dire que maintenant, le livre, il est là. Je me trouve à Montréal et je rencontre des gens par l'intermédiaire de ce livre. On me fait des échanges. Je fais des échanges avec des éditeurs qui m'échangent leur livre contre ce livre-là. L'idée, c'est de le faire vivre. J'en ai 1000 à distribuer, à diffuser. Et ce sont autant d'occasions d'échanges, d'entretiens, de paroles, tout ce qu'on peut faire avec un livre.
L'intermédiaire de la rencontre devient le propos de la rencontre. Oui. Philippe, tu fais des éditions, mais tu as également un lieu à Marseille que tu as nommé Salon du Salon pour également une mise en abîme, car il s'agit en fait d'un lieu qui se situe dans un appartement. Et dans cet appartement, tu consacres une partie de l'espace pour tes activités.
Je suis depuis 2013 l'occupant d'un appartement à Marseille qui comporte un double salon, 2 x 25 m² avec 3 chambres, situé sur l'avenue du Prado à Marseille. L'histoire a commencé en 2013. J'ai trouvé cet appartement, j'ai eu l'idée d'y organiser tout d'abord des expositions. Puis des éditions, ça fait maintenant 6 ans, plus de 21 projets sur place, des déplacements à l'étranger, des projets curatoriaux d'autres lieux à Marseille, en Italie prochainement, et des éditions avec les artistes qui m'intéressent. Voilà. C'est un séjour fort intéressant et l'accueil est fantastique. Voilà. Un peu triste de partir. Merci.
Merci et bon voyage.
Tous les samedis, 17h à 19h, écoutez l'émission Underground House Music avec DJ Peter B, Isam Ellis et Alex R sur les ondes de CIBL 101.5 et sur le www.cibl101.5.com. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Deep, old school, afro, jacking, tech et soulful house. DJ invité, artistes et nouvelles. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, House Radio MTR.
CIBL 101.5, la radio indépendante de Montréal.
Alors, vous écoutez Radio Atelier, votre magazine radiophonique sur le monde de l'art actuel à Jojage, Montréal. On est le vrai carrefour sur l'art actuel. Donc, vous pouvez réécouter toutes nos émissions radioatelier.ca ou encore sur votre appli Palado préféré. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous l'écoutez à chaque semaine ou si vous venez de tomber sur l'émission et que vous adorez ce que vous y entendez, alors je vous invite à en parler à vos amis, à partager l'émission et même à nous écrire. Notre deuxième chroniqueuse cette semaine est une nouvelle venue à l'émission. C'est Alizée Pichot. Bonjour. Alors, tu nous présentes une chronique sur la littérature aux accents féministes.
Oui, tout à fait. Féministe, c'est notamment parce que moi, je suis féministe, mais je ne pourrais pas parler pour cette autrice. Je vais vraiment plus parler de la substance de ces mots.
Et tu nous présentes qui aujourd'hui ?
Je vous présente un ouvrage de Naomi Fontaine, qui est une écrivaine innue, qui vient de Ouachat, dans la région de Sept-Îles. C'est une autrice qui est née en 1987, qui exerce aujourd'hui son art de la littérature, depuis la publication de son premier livre, « Que si panne », publié en 2011 chez Mémoire d'Encrier. Et c'est donc ce livre que j'ai choisi pour cette chronique du 21 octobre 2019. Aujourd'hui est un grand jour pour le peuple canadien, mais aussi pour l'immigrée française que je suis. Ce soir, nous aurons les résultats des élections et nous saurons lequel des partis en lice remportera le plus de sièges et donc quel leader aura l'immense privilège de prendre les décisions pour tous les citoyens. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler de politique. Ce soir, je vais vous lire les mots pleins d'espoir de Naomi Fontaine, qui résonnent en moi comme un chant ancestral et qui naviguent entre mes lèvres et vos oreilles dans l'idée de vous transmettre leur puissance et leur vérité. J'ai aussi choisi de vous lire « Que si panne » parce que ce n'est pas une œuvre explicitement politique, parce que c'est un livre sur l'espoir et le réel, sur le groupe et sur la solitude, sur les femmes, les hommes et les enfants qui vivent dans des réserves, ceux qui les quittent, et ceux et celles qui y reviennent. Naomi Fontaine nous parle d'un passé que les Blancs, comme moi et comme toi, Benjamin, ne connaissent pas et ne connaîtront jamais.
Et tu nous as apporté un extrait, justement, de ce texte.
Oui, tout à fait. J'ai voulu mettre en valeur les volontés contraires des femmes de sa génération, que ce livre transmet particulièrement bien. C'est une femme autochtone, une femme qui se livre et qui se délivre à travers les mots et le récit d'une réalité que beaucoup refusent de voir. Cet extrait est un hymne à la nature et à la résilience, ou encore un talisman à tenir proche de soi dans la joie et dans la douleur. Allons-y pour la lecture. À 40 ans, elle a découvert sa vraie nature. Mère, grand-mère à quelques reprises, femme d'expérience, de carrière mais pas carriériste. Une fois élue conseillère de son village, une fois candidate à la chefferie, défaite mais pas perdante, un regard doux, le sourire familier. Pensant se connaître à 40 ans, elle est partie avec un petit groupe suivre le chemin de ses ancêtres. Le printemps, les nomades retrouvaient leur village par le chemin tout tracé de la rivière. Ils traversaient les monts et les vallées, ramaient, marchaient, portaient. Ils s'y étaient habitués, restreints à se fondre dans la nature pour survivre, à se substituer à elle pour exister. Elle n'était pas prête à ce qui l'attendait, qui le serait? Le train les avait déposés au 1150. Ils avaient pris le souper dans un chalet. Le feu crépitait dans le poêle, la chaleur était bonne. La cheminée fumait, autant que les quatre femmes et le jeune homme qui discutaient joyeusement. Tout le monde se coucha de bonne heure. Tôt le matin, il fallait plier bagages et partir. C'était le début de quelque chose, la fin d'une autre. Marcher. Il fallait commencer par mettre un pied devant, le sac en toile sur les épaules, s'accrocher une confiance sur les lèvres, marcher jusqu'à la rivière, ramer. À genoux sur les planches de bois d'un canot qui avait mille fois fait ce trajet, suivre la rivière, reconnaître en elle la voie, celle des anciens, celle des siens. Quelques jours plus tard, elle voulait être chez elle, dans sa maison, dans son lit avec son amoureux au chaud, propre et fraîche, pour boire un café le matin avec de la crème et du sucre. Elle se refusait à vivre comme une nomade, à porter un instant de plus le nécessaire sur ses épaules. Elle n'était pas de celle-là, de ces femmes du passé qui ne comptaient ni le temps ni les efforts, qui grimpait chaque mont comme si c'était la dernière fois. Comment battre la nature, sa propre nature? Puis, le matin était arrivé, aussi sec que la nuit. Pour la première fois depuis son départ, elle sortit le miroir carré qu'elle avait emporté par orgueil ou par dépit face à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle vit que sa peau avait bronzé, que ses cheveux étaient gras, que ses sourcils n'étaient pas épilés, qu'elle semblait fatiguée. Fâchée de voir ainsi son image, son visage se métamorphosa. Pendant quelques secondes, elle crut voir le reflet d'une volonté familière, le regard qu'elle connaissait de la femme qui lui avait donné la vie, les yeux de sa mère sur son visage à elle, un défi, un combat, une quête, mais plus jamais une défaite. Elle aspira pour la première fois une bouffée du passé qui sembla se joindre à la réalité impassible de cette journée nouvelle.
Waouh, merci Alizée Pichot. Tu nous partageais un extrait de Naomi Fontaine. Aide-moi avec la prononciation.
Kuesipan.
Kuesipan. Waouh. C'est vraiment un extrait très bien choisi, très intéressant. J'ai aimé, en fait, que c'était un extrait extrêmement intime. On est dans l'intimité de cette dame, mais en même temps, qui fait preuve d'une grande distance avec le pronom impersonnel. Elle, une troisième personne du singulier. Et il y a plein de choses qui se déroulent autour. La nuit est arrivée d'une manière sèche, mais ça nous fait penser à un bruit, peut-être, un bruit sec, mais la mention du bruit est jamais là. Donc, c'est un extrait qui invite, en fait, à réfléchir à tout ce qui est autour des mots qui sont proposés.
Oui, au-delà des mots de Naomi Fontaine, il y a tout un tas de choses qui sont distillées. Elle nous parle d'un lieu dont on sent les effluves et les ardeurs. Ce lieu, c'est Ouachat. C'est un endroit qui a 11 heures de route de Montréal sur la côte nord, là où les vents soufflent fort sur le Saint-Laurent, sèchent la peau et chuchotent des poèmes d'océan aux oreilles attentives. Même ce titre, il comporte en lui énormément de significations. Kuesipan, c'est un mot qui fait référence à un mot inu, qui signifie « à toi » ou « à ton tour ». Ensuite, on va avoir un autre extrait que tu liras. Et cet extrait, il s'étend en fait comme une danse. Il vient terminer les pages précédentes en quelques lignes qui finalement entament un mouvement vers l'avant, vers la nécessité de garder la tête haute dans le danger ou dans l'adversité quotidienne, dans la réalité d'être femme, dans les réserves. Ces mots aussi sont remplis d'un espoir particulier, d'une voix qui est portée au-delà des réserves, au-delà des communautés autochtones, dans une volonté de transmettre le corps, le cœur et l'esprit qui ne peuvent vivre séparés l'un de l'autre. Dans cette prose poétique, Naomi Fontaine nous livre un témoignage puissant de notre époque, comme l'ont fait et le feront d'autres écrivaines en son temps. Alors à ton tour, Naomi, de nous conter encore un peu de ce chemin que tu as choisi, toi aussi.
Par le biais de ma voix.
Exact.
Ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, décamper, ramer. C'était sa vie. Celle que pour un temps elle avait choisie. Un emprunt à ses ancêtres, héritière par choix. Le chemin était déjà tracé par les milliers d'autres portages. Suffisait de se laisser guider, de croire en la promesse d'un matin plus doux, cueillir de ses propres mains la pureté de l'eau, libre dans la seule contrainte de survivre. Entourée d'épinettes hautes et de courts feuillus, elle vit les pistes du lièvre et repéra la perdrix silencieuse. Elle remercia les quatre autres d'avoir résisté. Elle remercia le ciel pour sa douceur en ces soirs de mai. Jusqu'au dernier pas, elle remercia le Créateur de l'avoir guidée.
Merci Benjamin pour cette lecture. Et ces dernières lignes me font penser à un texte qui n'est ni une forme de philosophie à l'encre assassine, ce ne sont ni des grandes phrases politiques pour nous faire réfléchir, mais des mots qui sont posés là comme une prière humaine, suave, triste et heureuse en même temps, universelle dans sa portée et dans son intention. Surtout les premiers mots, en fait, ramer, marcher, porter, camper, manger, dormir, décamper, ramer, une espèce de litanie qui est tellement illustratrice en fait de cette âme-là. Alors aujourd'hui, en ce jour des élections fédérales, je pense à toutes les femmes qui ont vu passer des scrutins sans se sentir représentées, à ces femmes qui sont décrites dans ce texte, ces femmes qui ont eu des droits bien plus tard que toutes les autres, à tous les individus dits marginalisés qui continuent de voter par crainte du pire qui pourrait arriver. Je pense aussi à ceux et celles qui ne veulent plus voter par déception. Et je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas voter car ils et elles n'en ont pas le droit. Alors à cet appel à la lecture, à cet appel à la réflexion, certains diront utopie. Et je leur réponds oui, pourquoi pas. Pourquoi ne pas rêver, éveiller à ce que les choses s'améliorent. Et si cela veut dire rester en dehors ou tenter de s'extirper d'un système politique arbitraire, discriminatoire et capitaliste jusqu'à la moelle, je le ferai et je continuerai à encourager. J'ai ouvert les portes de cette chronique comme on ouvre un livre, et ce grand livre est celui d'une réflexion collective, politique par l'intime, qui se veut ancrée dans notre temps. car je crois le devoir d'un écrivain, c'est de transmettre une vision du monde. Dans ses livres, dans ses choix, qui passent du personnel au politique comme du coq à l'âne, j'espère, comme Naomi, transmettre une volonté d'action, une volonté de regard réciproque sur nos existences, sacrées, de femmes et d'êtres humains, dans un monde aux mille et une possibilités de changement. Alors à vous qui m'écoutez, qui lisez, aimez, parlez, criez, pleurez, rebellez-vous, en fleurs et en drapeaux, dans la solitude ou dans les foules, mais tous ensemble pour la liberté.
Et on vous rappelle que les bureaux de scrutin sont ouverts jusqu'à 21h30 ce soir. On vous invite tous et toutes à aller voter. Merci, Alizée Pichot.
Merci.
Belle première chronique. Alors, il y a également un long métrage qui a été adapté du livre de Cui Pisan. C'est réalisé par Myriam Véro. C'est en salle dans tous les bons cinémas du Québec. Et à l'écran, il y a les acteurs Sharon Fontaine, Ishpateo, Yami Grégoire, Cédric Ambroise, Étienne Gallois. Et Caroline Vachon qui tiennent les rôles de personnages profonds pour conter l'histoire, une histoire d'amitié entre deux adolescentes inoues, inséparables depuis l'enfance, mais menacées par le fait que l'une rêve d'émancipation à l'extérieur de la réserve, tandis que l'autre, déjà mère, s'enfonce dans la misère au motif qu'elle doit rester solidaire des siens.
Oui, c'est notamment la force de leur lien qui apporte l'espoir et ce vent d'invincibilité, en fait. Que porte ce livre.
Et Alizée, à l'émission, il te reste une chronique, je crois, pour la saison d'automne. Est-ce que tu as déjà déterminé un peu les sujets que tu vas aborder dans cette chronique?
J'aimerais parler de la littérature de l'exil, en fait, avec un accent particulier sur un livre de Nancy Houston qui s'appelle Nord perdu. Et je fais un peu une pierre deux coups. J'ai un colloque prévu à Ottawa pour parler de ce thème-là, et j'ai envie de pouvoir l'explorer dans la même oralité et de parler de ce thème qui est très puissant. Beaucoup d'écrivains bougent et sortent de leur zone de confort, partent de chez eux pour écrire et pour écrire mieux, notamment au Canada, donc c'est important de parler de ça.
C'est intéressant, et puis ça pourrait être également pertinent, mais je vois plusieurs liens d'une certaine manière de parler de culture autochtone et d'exil. C'est d'une manière contradictoire peut-être, parce que contrairement à tous les autres, ce ne sont pas des invités dans ces territoires, ce sont des immigrants, mais d'une certaine manière, les villes que l'on a créées, la manière que l'on vit, créent une forme d'exil chez eux.
Oui, c'est peut-être même un exil spirituel, en fait, un attachement à la culture, à l'identité du groupe, de la communauté, qui est admirable, je crois, et duquel, moi, en tout cas, je m'inspire personnellement, cette résilience qui est due à un manque de visibilité dans l'espace public, un manque de représentation, donc une résilience qui ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen pour arriver à une place reconnue et nécessaire dans la société.
Alors, on vous invite à lire le livre de Noémie Fontaine, Cui Pisan, merci.
J'ai mémoire d'encrier.
Et de réfléchir également aux échos que ce texte peut faire générer dans votre propre vie et de la manière avec laquelle vous allez le prendre et vous en inspirer.
Tout à fait.
Alors, on va poursuivre en musique avec Chay Lefèvre. On écoute un extrait de la pièce MCVSTO de l'album DHM-TS938. Chay Lefèvre est un duo lo-fi glitch qui développe une esthétique de l'art sonore en direct avec des improvisations structurées. Yannick Chaillé manipule des objets amplifiés, des jouets au circuit électronique détourné, une radio allumée, un magnétophone à bobine ou des synthétiseurs, tandis que Alain Lefèvre se concentre sur différentes pédales et des objets amplifiés, manipulant aussi le piezo de son micro-contact directement, donc d'une certaine manière, il amplifie son propre corps.
Le segment création cette semaine a été proposé par le Centre Clark. Il présente jusqu'au 30 novembre l'œuvre « Sans objet », l'audioguide, de l'artiste Karina Pawlikowski. Karina a généreusement offert de créer une œuvre tout spécialement pour la radio, mais elle ne pourra pas être présente aujourd'hui pour en discuter. Cela dit, la création consiste justement à trouver une solution à ce problème. Alors tout d'abord, bonjour Karina, bienvenue à l'émission.
Bonjour Benjamin, merci de m'accueillir ici. Je suis très heureuse de participer au segment création de ce soir.
Donc Karina, on parle bien avec toi, mais c'est par le truchement d'une voix synthétique que nous t'accédons, qu'on parle avec toi. Est-ce que c'est une distinction importante à faire?
La voix de synthèse fait partie intégrante de ma pratique depuis 3 ans. Cette doublure s'est insérée dans mes œuvres au même moment où j'étais enceinte de mon 2e enfant. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'avais, certes, beaucoup moins de temps à tuer dans les événements artistiques mondains. La voix de synthèse, Chantal, de son prénom, agit comme une remplaçante pour combler mon incapacité à me reproduire.
Bonjour Chantal, alors, également. Karina, est-ce que tu peux nous parler davantage de l'usage justement de cette voix de synthèse? Qu'est-ce que ça permet dans ta pratique?
La voix de synthèse a 2 fonctions principales. Outre son rôle de doublure, elle génère un décalage inespéré entre le contenu du texte et l'interprétation. Cette voix de désincarnée n'assume pas ce qu'elle dit puisqu'elle ne peut saisir l'intention derrière le discours. Peu importe le propos, elle le dira toujours avec la même intonation. « Je mange une pomme. Shit, j'ai renversé du café sur ma chemise neuve. J'ai perdu mon chien, je crois que je vais rentrer chez moi. » Ce décalage entre le contenu et l'interprétation m'amène au 2e point, la contingence. La voix de synthèse génère des accidents pendant l'interprétation du texte. Par exemple, Chantal est incapable de prononcer le mot « allaiter ». Vous voyez, « allaiter ». Elle tente de dire le verbe à l'infinitif utilisé pour nommer une personne qui donne le sein à son enfant, « allaiter ». Comprenez-vous?
Allaiter, oui. Il y aura toujours une distance entre l'humain et nos machines. C'est drôle, ça me fait penser, je sais pas si tu as vu le très bon documentaire Ghost Dance de Ken McLuhan. Il y a un moment où le philosophe Jacques Derrida se fait demander s'il croit aux fantômes, puis il prend un merveilleux détour pour répondre. Pour lui, se faire filmer, hein, parce qu'il est filmé dans le documentaire, pour lui, se faire filmer, c'est comme une manière de laisser un fantôme parler à sa place. Karina Pawlikowski, est-ce que tu crois aux fantômes?
Très bonne question, Benjamin. Je n'ai plus la permission d'écouter des films d'horreur depuis l'âge de 14 ans. Ma dernière expérience horrifiante remonte au film L'Exorciste, la version de 1973. J'ai encore en tête la scène où l'enfant possédé descend l'escalier le dos renversé, tête première. Bref, je ne sais pas si je crois aux fantômes, encore moins aux fantômes technologiques. Je ne pense pas être en mesure de saisir toutes les subtilités qui définissent le fantôme. Cela étant, la voix de synthèse agit certainement comme un double, un dispositif de ventriloquie à qui je donne ma voix, ou peut-être même qu'elle me la prend. Mais je suis complètement confortable et consentante dans cet échange.
Je l'espère bien. Alors, ce rapport-là entre fantôme et image ou encore voix synthétique et corps, ben ça nous apporte justement à parler du corps dans ta pratique. Tu as commencé en performance, mais même dans tes dessins, il y avait le corps, ou du moins la notion du vivant était présent. Mais dans tes œuvres plus récentes, l'image du corps est disparue. À la place, tu y fais référence ou encore tu lui donnes des directives. Donc, quelle est la place du vivant dans ta pratique ou comment le vivant a-t-il été transposé dans ta pratique en écriture?
Avant, le vivant était exploré sous la forme d'un thème général qui englobait ma pratique en dessin, en photographie et en performance. Il était le sujet principal, le concept clé. Dans ma pratique en écriture, le vivant devient à la fois invisible et multiple. Parfois, il prend le rôle d'une narratrice, dictant à l'auditeur ou l'auditrice des actions à faire ou à reproduire. Dirigez-vous au centre de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. D'autres fois, il s'efface, en étant moins directif. Il prend la forme de pronoms multiples, je, tu, vous, nous, il, elle, le, la, lui, en, I.
La voix que tu utilises est peut-être désincarnée, mais elle fait référence à une langue populaire. Tu me disais que c'était en réaction à la langue morte de l'Académie. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
Les voix de synthèse sont conçues dans l'objectif de rendre compte de textes écrits dans un français normé. Lorsque le texte déroge d'une langue correctement écrite, la voix subit une faille qui devient pertinente et qui la rend vivante. En voici un extrait tiré de l'œuvre audio. Chantal, créée en 2016. Si mes calculs sont bons, je suis rendue à 36 semaines. Je suis enceinte jusqu'aux oreilles. J'ai pas le choix, faut que je dorme. Sinon je risquerais de crever mes autres autos devant vous. En pleine présentation de projet, la honte. Imaginez, je vous parle de ma recherche, de mon désir d'écrire et de dessiner, de faire un livre, ou du moins une séquence. Et là, flouche, ça commence à me couler entre les jambes. Ploc 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 ploc. Un fleuve de liquide amniotique qui s'étend sur le plancher de ciment fret pour rejoindre vos pieds qui se mouillent à leur tour.
Je suis content qu'on ait pu entendre cet extrait-là parce que ça me permet de parler d'autres choses que je voulais aborder avec toi. Il y a quelque chose de décidément féministe dans ta pratique.
Je m'intéresse aux questions liées au travail domestique non valorisé et non rémunéré. Dans le récent ouvrage « Le capitalisme patriarcal », Sylvia Federici démontre que le capitalisme s'est construit sur le travail reproductif non rémunéré des femmes à la maison, dans les tâches liées aux soins, à l'éducation, à la procréation et à l'entretien de l'espace domestique. Le féminisme est intrinsèque à ma pratique. Malgré m'avoir robotisée, je suis l'incarnation d'un corps enceinte, d'un corps qui allait, qui donne des soins, d'une personne au foyer, qui subit les contre-coups liés à la non-reconnaissance du travail domestique.
Il y a également ces deux choses-là qui sont revenues souvent quand on a parlé de ton travail ensemble, c'est cette idée-là de la maternité et de la maladie. C'est des moments intimes qui se vivent justement chez soi, mais c'est aussi deux espaces importants, deux moments importants où on peut créer beaucoup de savoir. Est-ce que tu peux nous parler davantage pourquoi tu souhaites revaloriser les savoirs de la sphère domestique?
La sphère de l'espace domestique est non valorisée par le savoir scientifique et universitaire. L'écriture de l'intime apparaît comme un sous-genre, subjectif et anecdotique. Dans mon travail, je revendique l'espace domestique comme un espace légitime de création du savoir qui a une valeur au même titre que les voix désincarnées de l'espace politique, universitaire ou scientifique. Dans mon parcours universitaire, j'ai beaucoup remis en question l'écriture et la voix objective qui tend à effacer le sujet par souci de rigueur et de crédibilité. J'étais au même moment confrontée à des enjeux de santé et à un contexte de maternité qui provoquait un décalage important entre mes deux postures. D'un côté, celui de mon rôle d'étudiante-chercheur en milieu universitaire qui se doit de rendre compte objectivement d'un savoir lié à l'institution, et de l'autre, celui d'un corps affecté, malade et limité qui impose sa présence et sa subjectivité. Il est très difficile d'effacer le sujet d'un corps patient.
Tu me partageais que l'une de tes interrogations ces temps-ci, c'était jusqu'où doit-on aller pour faire une œuvre, ou plutôt, doit-on produire quelque chose pour faire une exposition? Je trouve qu'il y a une certaine correspondance avec le domestique. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment, réellement achevé dans une maison? Est-ce qu'il y aurait un lien entre une exposition imaginaire, simplement en mots racontés, et le travail continuel qu'on doit faire dans notre milieu de vie?
La correspondance que tu fais entre l'espace domestique et la finalité d'une œuvre est intéressante. Mes questionnements liés à la notion de faire et d'achèvement face à l'exposition sont apparus suite à des restrictions corporelles qui m'empêchaient de produire réellement des œuvres. L'écriture, dans l'espace domestique de la chambre, s'est installée comme une possibilité de prendre part au discours, de créer une exposition racontée, mais bien réelle, tout en m'excluant des lieux physiques et visibles des institutions artistiques.
Karina, merci encore beaucoup pour ce merveilleux segment création. Vous pouvez en apprendre davantage sur la pratique de Karina Pawlikowski sur son site internet que nous mettrons en référence au radioatelier.ca.
Merci Benjamin pour l'invitation.
On se quitte, et ben oui, c'est ce qui termine. l'émission, on va se quitter sur une dernière pièce, là, cependant, du commissariat musical. C'est une pièce d'Émilie Payet, Payère, excusez-moi, je ne connais pas la prononciation de ton nom, Émilie. Également, le titre me laisse un peu perplexe concernant sa prononciation. Le titre, c'est Ensimmäinen. C'est un enregistrement en direct qu'on retrouve sur l'album Kaksi Kierta, qui a été réalisé lors d'une résidence en Finlande. Émilie Payère se spécialise dans les faits Larsen des consoles analogiques et donc c'est du feedback en fait avec les consoles analogiques. Vous pouvez la voir en spectacle le 22 octobre prochain au Barfly avec sa formation Moshi Moshi et le 25 octobre prochain en duo avec Peter Blazer à Eastern Bloc pour leur festival Sight and Sound. Émilie Payère fait partie de la discographie de la maison Rara Ravis depuis ses débuts et nous vous rappelons que c'est eux qui ont fait la sélection musicale ce soir. Vous êtes invités le 26 octobre à partir de 20h30 à la Casa Obscura pour des performances intimes improvisées et bruyantes de Chaillet Lefebvre et Ghislain Roy et le trio Noise Vlav. C'est également le lancement de leur nouvel album. Je m'appelle Benjamin J. Allard et vous écoutiez la 171e émission de Radio Atelier. Merci à toute l'équipe et à vous également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain dès 18h pour une autre émission de Radio Atelier sur les ondes du CIBL.